Non, hier soir, Patricia a commencé à parler des cinq facultés. Je les renomme la confiance, l'effort, l'enthousiasme, la présence attentive, la concentration et la sagesse. Donc ce soir, je vais parler des deux derniers. Mais c'est ces classifications rigoureuses qui sont vraiment très nombreuses dans le bouddhisme sont quand même des organisations un peu plus tardives. Dans les enseignements du Bouddha lui-même, on ne trouve pas ces classifications. On a bien l'impression que c'est une réflexion qui est faite, un regroupement qui est fait de tous les enseignements que le Bouddha a donnés. Et puis on organise ceci dans différentes catégories. Des catégories presque qu'on multiplie à l'infini, il y en a tellement, on retrouve les mêmes éléments dans diverses catégories. Je dis ceci parce que je vois bien quand je les ai étudiées, ces catégories, quelquefois on a l'impression que ce sont aussi des éléments séparés. On aurait la confiance, puis ensuite on aurait l'effort juste, puis ensuite on aurait la présence méditative, comme si quand même c'était des choses séparées. Je crois que c'est important de bien prendre conscience que c'est dans un état méditatif équilibré, tous ces éléments vont être rassemblés et que ce n'est pas nécessaire toujours de les séparer, de croire qu'il faut les séparer, mais c'est vrai que ça peut être judicieux dans la pratique, surtout quand un manque, dans le fond, il n'est pas assez fort. On pourrait très bien, dans sa pratique, tout d'un coup découvrir que tiens, il manque quelque chose. Et puis découvrir peut-être que ce qui manque, peut-être que c'est la sagesse, dans le sens où il n'y a pas assez de curiosité par rapport à ce qui se passe, donc où les autres éléments sembleraient, il y a la confiance, il y a un effort, il y a une présence, mais finalement qui pourrait rester superficielle. Et ça pourrait être une indication que je me contente de ce que je découvre sans garder une certaine curiosité. Voilà un exemple. Ou bien, alors, il pourrait y avoir beaucoup de curiosité, mais finalement, cette curiosité n'est pas assez stable, et je pourrais découvrir peut-être que l'esprit n'est pas assez stable. Il est curieux, mais il va trop d'un élément à l'autre sans se poser sur un vécu qui lui permettrait de l'approfondir. Donc parfois, c'est utile de se rappeler ces différents éléments pour voir s'il y en a un qui manque, mais de toujours vouloir les séparer comme si je vais pratiquer ceci et puis ceci et puis ceci séparément, je ne crois pas que c'est judicieux. Voilà, donc je crois que c'est vraiment un tout quand l'esprit méditatif est équilibré. Et quand il n'est pas équilibré, alors il y a un élément qui peut manquer, ou deux, ou les cinq parfois. Donc les deux derniers éléments, concentration et sagesse, que je vais aborder ce soir. Tout d'abord pour dire qu'il y a deux manières de calmer l'esprit, et ça je crois que c'est important, parce que souvent on ne comprend pas très bien. Il y a deux manières de calmer l'esprit. Un qui est par la concentration et un qui est par la sagesse. Donc on peut calmer l'esprit, le stabiliser, soit par la concentration, soit par la sagesse. En général, on parle de concentration pour stabiliser l'esprit parce que c'est le plus simple à décrire, peut-être le plus simple comme stratégie. Aider, mais peut-être on verra qu'il manque un des éléments qui est propre à la sagesse. Mais à nouveau, concentration, sagesse, eh bien, donc, comme moyen de stabiliser l'esprit, on verra qu'on peut très bien commencer par l'un, pratiquer l'un, et puis par moment, selon les circonstances, passer à la sagesse pour stabiliser l'esprit, et puis si c'est nécessaire, devenir un peu de concentration. Et c'est d'une certaine manière très légèrement ce qu'on fait ici avec la zone d'ancrage. On revient à la zone d'ancrage comme quelque chose de plus défini et qui nous permet de poser l'esprit sur un domaine d'expérience stable et ainsi un peu se stabiliser plutôt que d'avoir l'esprit qui est sollicité de partout. Maintenant, dans la concentration, on se rend compte qu'en pali, en sanskrit et en tibétain, il y a différents termes qu'on pourrait traduire par concentration. Et ces termes ont des sens bien, bien précis, et qui marquent des nuances dans l'attitude. Il y a un premier sens qui est saisir avec précision cette manière de focaliser l'esprit de manière très, on pourrait dire, très, très pointue. Alors le terme, je prends le terme tibétain parce que c'est le terme que je connais mieux, tingye dzin. Dzin, c'est saisir, et tingye ting, c'est un point, saisir de manière très ponctuelle, donc très précise. Le sanskrit dit exactement la même chose. Donc ce type d'attitude est plutôt comme un laser, si on veut, qui va très précisément sur une zone de l'expérience, avec cette, on pourrait dire, cette énergie qui vient du fait d'être très limitée juste à cette expérience-là. Ça pourrait être la sensation dans une certaine zone. Ça pourrait être aussi on verra les différents supports, sur un indice de couleur, etc. Donc, un premier terme. Un deuxième terme, qui veut plutôt dire le calme. Je prends le tibétain, qui est shiné. Shi, c'est la paix. Ené, c'est demeurer. Demeurer dans la paix, dans le calme. Là, on a autre chose. On n'a plus cette focalisation très précise. On a quelque chose plutôt de posé. Donc pour aborder la manière de tranquilliser l'esprit, de le concentrer, de le stabiliser par la concentration, en général, on prend un support et on va y attacher l'esprit. Un support, ça veut dire un domaine d'expérience. Je vais préciser lesquels il peut y avoir. Donc c'est un peu comme si on attachait un cheval à un pieu et... D'exemple, des fois, ils disent qu'on resserre un peu la corde et le cheval, tranquillement, va s'apaiser. On peut imaginer au début, il court un peu dans toutes les directions et puis lentement, il va s'apaiser et rester très tranquillement auprès du pieu. Donc là, on prend une sphère d'expérience à l'exclusion de toute autre expérience et on va essayer d'y fixer l'esprit. Il y a un travail d'exclusion, de tenir à l'écart tout ce qui n'est pas ce domaine d'expérience. Que ce soit agréable ou désagréable, peu importe, je parle des stimulations qui sont autres que l'expérience, même nobles ou ignobles, peu importe. Dans le graphique qui décrit ce développement de la concentration, sur le côté, on voit un arbre et un singe qui cueillent des fruits, et ça veut dire que même quand on est engagé dans cette pratique-là, même si des pensées vertueuses surgissent, il faut les laisser tomber pour continuer le développement. Parce qu'autrement, ah ben oui, ça c'est bien, etc., je devrais faire ceci, et finalement l'esprit ne peut jamais se stabiliser. Là, on reste sur cette tâche particulière. Il y a vraiment une sorte de détermination profonde, on pourrait dire c'est l'énergie, dans les cinq facultés. Donc, exclure tout autre type d'expérience. Exclure, ça veut dire qu'on ne se laisse pas séduire ou déranger par tout autre stimuli que l'expérience méditative ou le support qu'on a choisi. Ce qui veut dire que si j'ai choisi, je prends un disque de couleur, si j'ai choisi un disque de couleur comme support à la concentration, je vais le décrire, et puis que tout d'un coup il y a le chant d'un oiseau, ah, c'est super, je ne m'attache pas, je ne m'arrête pas au chant de l'oiseau, je reste sur ce disque de couleur ou je reviens au disque de couleur. Donc, on choisit un support à l'exclusion de tout autre. Donc, il y a là un travail de discipline. On forme l'esprit. Donc, la concentration, nous connaissons tous ceci parce que nous en avons besoin dans la vie quotidienne. On sait très bien quand un jour on n'est pas concentré, que voilà, on n'arrive pas accomplir les tâches de manière efficace ou judicieuse. Donc c'est quelque chose qu'on connaît, mais ici on le développe à un autre niveau. développé dans la méditation à tel point qu'on pourrait rester, l'esprit pourrait rester fixé sur une expérience pendant des heures, sans la moindre fluctuation et sans le moindre effort. Après certains temps de pratique, pas au début. On peut dire que l'absence d'effort, ça fait partie du développement, où tout d'un coup l'esprit se stabilise, se fixe sur ceci, et d'une certaine manière, il y a une certaine satisfaction qui est obtenue, une certaine joie, parce que toutes ces stimulations où l'esprit, qui attirent l'esprit, c'est quelque chose qui le tende dans le fond. Chaque fois qu'il y a un stimuli qui l'appelle, ça tend l'esprit. Et lorsqu'il se repose, il repose sur un même type d'expérience, il va faire l'expérience d'une certaine détente, d'une certaine joie. C'est tellement plus tranquille de rester sur ce support que de toujours courir à gauche, à droite pour répondre aux différentes stimulations. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la joie, de la sérénité qui surgit. Naturellement, parce que l'esprit n'est plus constamment chahuté. Et souvent, c'est le modèle qu'on a en méditation, avant peut-être de s'engager dans la pratique, ou celui qu'on a peut-être par les lectures ou les médias. En général, c'est ce modèle-là. On va calmer l'esprit, on va pouvoir l'isoler de toutes les stimulations et faire une expérience de quelque chose d'agréable et de joyeux. On a ce schéma-là. Parce que c'est le schéma le plus facile à comprendre. Mais évidemment, la méditation ne se limite pas à ça. Si on limite la méditation à ceci, alors c'est un immense appauvrissement. Même si ceci est déjà quelque chose d'enrichissant. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme support, comme zone d'ancrage où on va, comme pieu, si vous voulez, auquel on va attacher l'esprit, parce que c'est quand même l'image qui est souvent utilisée. Alors on peut choisir la respiration, c'est souvent le cas. On peut choisir une image, comme celle d'un disque de couleur, je parle de ce qui se fait traditionnellement. On peut utiliser un son, ou un son d'un mantra qu'on réciterait mentalement. On peut utiliser des sentiments positifs, tels que la bienveillance, la compassion, la joie sympathique ou l'équanimité. On peut choisir. Donc, à ce moment-là, on va prendre ceci comme support. C'est de développer, disons, la bienveillance à l'exclusion de toute autre expérience. Et l'esprit va demeurer simplement avec cette qualité-là à l'esprit. Donc, c'est évidemment immensément positif quand on peut développer ces qualités-là, c'est la tranquillité à travers des qualités positives comme la bienveillance. Donc lorsque l'esprit est tiraillé à gauche, à droite, on le ramène sur l'expérience qu'on a choisie comme support à la concentration. Mais pour pouvoir fixer l'esprit sur quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose de fixe. Et ce qui veut dire que ce n'est pas sur l'expérience vivante, vécue, qu'on va poser l'esprit pour le stabiliser, mais c'est sur une représentation. Dans les disques de couleurs, par exemple, c'est décrit dans les textes, c'est très précis. Le méditant, la méditante, voilà, on décrit très bien, fait en terre, pas besoin d'être cuite, mais après, il fait un disque en terre, il va le peindre en bleu ou en jaune, etc. Il va laisser sécher au soleil, et puis ensuite, il va le regarder, ou elle va le regarder, le méditant, la méditante va le regarder très clairement, et ensuite avoir une image mentale. Si cette image devient floue, etc., il va regarder à nouveau pour que l'image mentale soit extrêmement claire. Pour comprendre ceci de manière assez simple, c'est que d'abord, s'il fallait rester les yeux fixés sur quelque chose pendant des heures, on aurait des problèmes, les yeux vont se tendre, il y aurait des problèmes, et aussi la lumière change. Le phénomène ne reste pas stable. C'est une expérience qui change d'instant en instant, selon les circonstances. On pourrait même dire qu'avec le clignement des yeux, l'image deviendrait un peu comme un film au ralenti. Donc pour que l'esprit puisse se poser vraiment, puisque dans la perspective, il pourrait se poser pendant de longues périodes, eh bien, il faut quelque chose de stable. Et ce stable ne peut pas être une expérience sensorielle, ça doit être une représentation, une image mentale qui, elle, ne change pas d'instant en instant, puisqu'elle ne dépend pas d'éléments physiques et des organes sensoriels. Donc le son du mantra, la personne le répète, il est mental d'ailleurs. Quant à la respiration, ce n'est pas la respiration au niveau des sensations corporelles qui fluctuent, eh bien c'est l'attention à la respiration comme mouvement de respiration, d'inspiration, d'expiration, ou bien, l'anglais utilise rising and falling, on pourrait dire le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Soulèvement, abaissement de l'abdomen, mais ça, c'est une représentation. Il y a une collection de sensations, et ceci, on l'appelle soulèvement. Une collection d'expériences, on l'appelle abaissement. Donc, soulèvement, abaissement, et ceci se répète, donc c'est une représentation et pas le vécu lui-même, sensoriel. Donc il y a une saisie, et c'est exactement ce qui permet de stabiliser l'esprit. Donc pour ceci, il faut cette représentation, qu'on appelle concept. Alors, ça aide à la stabilité de l'esprit, ça aide à la concentration, mais d'une certaine manière, ça amène une certaine confusion, puisque l'image du disque jaune, ce n'est pas la vision du disque jaune. Il y a une différence entre la représentation et le vécu lui-même, l'expérience visuelle, de même que l'expérience de la respiration au niveau de la représentation, de l'inspiration ou de l'expiration, ce n'est pas le vécu lui-même à chaque instant, des sensations corporelles qui bougent. Vous voyez, une inspiration, ça ne peut pas être un vécu puisque ça prend du temps. Une inspiration, ça dure, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ça dure un certain temps. Eh bien, s'il y a quelque chose qui dure un certain temps, ça veut dire qu'on a mis une représentation sur tout un processus. Inspiration, expiration. Donc, ce n'est pas un vécu, c'est une représentation qui accompagne ce vécu, qui se substitue au vécu, qui est stable. C'est cette stabilité qui est nécessaire dans le développement de la concentration. Mais comme c'est par l'intermédiaire d'une représentation, d'un concept, ça ne change pas d'instant en instant. C'est pour ça qu'on peut développer la concentration. Par contre, le fait que ça ne change pas d'instant en instant, ça voit la réalité qui change d'instant en instant. Le monde dans lequel nous vivons change d'instant en instant. Donc il est clair que le développement de la concentration est utile, c'est un développement utile, mais qu'il ne peut pas se substituer à la sagesse. Alors on peut utiliser par moment pour calmer la concentration ou la sagesse, il n'y a pas de problème, mais c'est bien de savoir ce qu'on fait. On est dans une sorte de flou, de confusion. Donc, s'il s'agit de tranquilliser l'esprit, on peut se demander donc qu'est-ce qui l'agite ? Quel est l'ennemi, entre guillemets ? Évidemment, c'est pas un ennemi, mais quel est l'ennemi ? Qu'est-ce qui est problématique ? Qu'est-ce qui agite l'esprit ? Alors, ce qui agite l'esprit, c'est les stimuli, vastes stimuli, on peut dire, qui se succèdent rapidement. Enfin, si les stimuli sont des impacts qui viendraient du monde sensoriel, on ne va pas les éliminer. Pas parce qu'on est dans la concentration que les oiseaux vont se taire. C'est quelqu'un qui médite. Donc, ces stimuli vont être encore là. Ce qui agite l'esprit, c'est les réactions. C'est le fait de réagir au son, réagir à la sensation corporelle. C'est toutes ces réactions d'aversion, de réticence, d'attachement, de désir désir de saisir ceci, oh, c'est tellement beau, ce sont le chant de l'oiseau, on veut le saisir, ou même une expérience intérieure agréable, on veut la saisir. Donc, ce qui agite l'esprit, ce n'est pas tellement les stimulations, c'est les réactions à ces stimulations d'aversion, de désir, ou alors à ce moment-là, au lieu d'être juste sur l'expérience, il y a ce commentaire qui vient dire c'est ceci, c'est cela, c'est mieux, c'est moins bien, et ce commentaire se substitue au vécu lui-même. Donc, ce qui agite l'esprit, ce ne sont pas les expériences, on pourrait dire, ou le monde, c'est notre réaction, c'est la manière dont on réagit constamment à ces stimulations. Donc ce qui permet, ce qui va être nécessaire pour calmer l'esprit, eh bien d'une certaine manière, c'est de calmer ses réactions. Avec la concentration, qu'est-ce qu'on a fait ? On a placé l'attention sur quelque chose de limité pour que ces stimuli, dans le fond, n'entrent pas dans la zone d'attention. On les a exclus par l'attention. Donc on n'est pas sollicité. Dans le développement de la sagesse, ce qu'on va faire, c'est on va développer l'équilibre de l'esprit méditant. On va développer la tranquillité, la stabilité sur l'esprit lui-même. C'est-à-dire que c'est au niveau des réactions qu'on va pouvoir apaiser et qu'à ce moment-là, l'esprit va pouvoir se calmer. Il se calme parce que on est attentif aux réactions et qu'on ne les nourrit pas. Donc, l'attention dans la sagesse, elle n'est pas placée sur un objet, elle est placée sur la qualité de l'esprit qui médite. Une manière de décrire, il y a sûrement beaucoup de manières de décrire, mais là, je prends celle-ci aujourd'hui. Donc, on tranquillise l'esprit dans la sagesse parce que on est attentif à la qualité de l'esprit qui médite et on ne nourrit pas les attitudes d'aversion, de désir d'attachement ou de nécessité de commenter ce qui se passe. Donc c'est l'esprit, c'est sur l'esprit lui-même qu'on agit, non pas par l'intermédiaire d'un objet. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'exclusion. On n'exclut pas les stimuli en isolant, dans une sorte de réclusion, en isolant l'attention sur une zone spécifique. L'esprit peut rester ouvert aux différentes expériences, lequel va venir parce qu'on ne prend pas ces expériences, on n'y adhère pas. Alors, on peut les accueillir, elles nous traversent. Chant d'oiseau, l'audition, etc., c'est surgi, mais l'esprit n'est pas déséquilibré ou troublé par ceci. Une qualité qui fait que l'esprit n'est pas réactif et il peut rester dans cette disponibilité, quelles que soient les stimulations qui surgissent. Parce qu'il ne se laisse pas affecté, non pas par indifférence, mais parce que il n'agit plus ses réactions immédiates. Donc, le développement de la tranquillité par la sagesse, alors on peut passer de l'un à l'autre, c'est ce qu'on fait dans la pratique avec revenir au point d'ancrage et puis quelquefois un peu plus ouvert ou disponible à d'autres expériences. Le développement de la tranquillité par la sagesse, l'intérêt c'est que ça permet de rester ouvert à toutes circonstances sans en être troublé et ça ne passe pas par la saisie d'un concept qui voile le fait que tout change d'instant en instant. Pour nous, la concentration, c'est qu'il voile cet aspect de la réalité. Ici, ce fait de ne pas réagir d'instant en instant permet aussi d'être dans ce flot des expériences. Et à ce moment-là, même si on prend la respiration par moment, mais on l'aborde du point de vue de la sagesse, pas du point de vue de la concentration, s'intéresse à la respiration, parce qu'il n'y a rien de prédominant. À ce moment-là, ça ne sera pas à travers une représentation, c'est-à-dire soulèvement, abaissement de l'abdomen, ou bien inspiration, expiration, ça sera à travers les sensations corporelles. Dans le mouvement de la respiration, il y a ces sensations qui changent d'instant en instant, qui nous permettent d'abord, évidemment, d'être conscient du processus. S'il n'y avait aucune sensation, on ne peut pas savoir si on est dans l'inspiration ou l'expiration. Donc le fait maintenant de ne pas s'attacher à la représentation, un nouveau abaissement, soulèvement de l'abdomen ou autre, à ce moment-là de revenir dans la sensation corporelle, il n'y a pas besoin d'un concept. À ce moment-là, on peut développer la sagesse parce que ça va nous permettre de découvrir la nature profonde de l'expérience corporelle. On n'a pas pris ce voile de la stabilité pour stabiliser l'esprit. Là, les textes, Emma Sisayado fait bien cette différence entre la respiration comme support à la concentration et la respiration comme lieu du développement de la sagesse. Marquons bien cette différence, une s'appuyant sur une représentation, un concept et l'autre pas. Donc là, j'ai parlé de sagesse comme moyen de tranquilliser aussi l'esprit, mais la sagesse va plus loin. Ce n'est pas l'objectif ou le but ou l'enjeu, ce n'est pas simplement de tranquilliser l'esprit. L'enjeu est toujours le même, c'est la liberté. Et la liberté, ça ne veut pas dire avoir l'esprit toujours tranquille, ce n'est pas ce dont il s'agit. Je crois que le Bouddha et le bouddhisme expriment bien ceci. Et c'est fondamental, autrement ce système n'a aucun sens. C'est que nous ne sommes pas conditionnés, enfermés par la réalité. Nous sommes conditionnés, enfermés par notre confusion par rapport à la réalité. Et ça, c'est fondamental, parce que si c'est notre réalité, la réalité du monde dans lequel nous vivons et notre propre réalité qui fait que nous sommes limités, conditionnés. Beaucoup de systèmes disent que c'est la nature humaine que d'être limité, que d'être en colère, que de souffrir du vieillissement, etc. Alors évidemment, là, il n'y a pas d'interrogation sur une liberté possible. Mais là, ce que dit le Bouddha et le bouddhisme, et la pratique de la méditation ne peut s'appuyer que sur ceci, c'est que nous sommes limité, conditionné par notre confusion et pas par la réalité. Ce n'est pas la réalité du monde dans lequel nous vivons qui est problématique. Ce qui veut donc dire que en développant la sagesse qui va éliminer la confusion, il est possible de se libérer de la confusion, donc de ce qui nous enferme, de ce qui nous limite, et découvrir cette liberté illimitée, indépendante, inconditionnée. Non, sans ça, ça n'a pas de sens. Si on est limité, conditionné par le monde dans lequel on vit, par la réalité, alors on peut se calmer. Alors c'est, je crois que la difficulté, pour un premier approche de la méditation, c'est de ne pas la mettre dans ce contexte du fait que nous sommes limités par la confusion et pas par la réalité. Si on ne met pas ceci en place, alors le but de la méditation, c'est la tranquillité. Voilà, c'est ce que ça peut amener. Ça peut seulement amener à quelque chose de plus profond, dans la mesure où ce n'est pas la réalité qui nous conditionne, qui nous limite. Alors maintenant, voilà, confusion. Ben, confusion, ben, qu'est-ce que ça veut dire, confusion? On est confus. J'ai tendance à citer toujours les mêmes sutras, ben, c'est ceux qui semblent le plus explicites. Dans un sutra, un moine vient interroger le Bouddha et lui dit, dites-moi, maître, quand on est perdu dans le lac des tourments, des difficultés, de la confusion, où? Il dit, où est l'île, où est le refuge? Est l'île, est le refuge, ça veut dire la liberté inconditionnée. Voilà, quand on est dans la confusion, alors son lac des tourments et autres, c'est pas seulement parce qu'il y a du vent et puis il pleut, c'est évidemment pas ce genre de tourment. Ni même qu'il aurait des douleurs physiques, mais il faut bien imaginer quand même ces tourments, si on veut donner un peu de vie à ceci, ces tourments, ça doit être évidemment une confusion intérieure, ça doit être la luxure, ça doit être l'angoisse, l'inquiétude, voilà le lac des tourments. Autrement, ben, ça reste assez limité. Donc quand on est perdu dans ceci, submergé, on pourrait dire, où est l'île, où est le refuge? Et le Bouddha répond très, très succinctement. Il dit, le refuge, l'île est dans l'absence de saisie. C'est dans l'absence de saisie qu'on trouve la liberté. Donc voilà, il le dit à nouveau de manière extrêmement brève. Je crois que ça permet, ça donne ces repères qui nous permettent de comprendre ce qui est en jeu dans la méditation. Maintenant, on dit, voilà, l'absence de saisie, vraiment quand on a une situation dramatique, terrible, etc., avec tous les tourments, l'absence de saisie, c'est ce qu'il faut. Donc, je ne vais pas saisir. Il n'y a qu'à dire. Pourquoi on ne m'a pas dit ça plus tôt? J'aurais gagné 10 ans de psychothérapie. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ou comment est-ce qu'on peut mettre en jeu l'absence de saisie? À nouveau, toute la manière dont la méditation est structurée, comme nous la décrivons suivant la tradition, elle est exactement pour mettre en lumière la saisie et l'absence de saisie. Si on est là dans le silence, assis plus ou moins immobile, etc., en marchant tranquillement, c'est pour explorer cette possibilité d'une absence de saisie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ou comment est-ce qu'on saisit? C'est quoi cette saisie, ce truc dont on voudrait bien se débarrasser? Je ne sais pas si c'est le très bon terme, mais c'est quand même le terme qui est utilisé traditionnellement, parce que la manière de saisir, disons, on ne peut pas saisir une expérience sensorielle. Ce n'est pas possible. On voit quelque chose, vous pouvez regarder, mais ça change, la couleur change, etc. On peut la saisir par le téléphone, par l'appareil de photo, mais ça ne saisit rien, c'est un substitut. On ne peut pas arrêter le flot des expériences, on ne peut pas saisir les vécus. Ils s'écoulent, ils dépendent de conditions qui changent d'instant en instant. Donc, aucun vécu ne peut être saisi. Un son qui surgit, on ne peut pas le saisir. Voilà, la porte, elle ne grince plus. On ne peut pas saisir la porte quand elle grinçait. Disparu. On peut essayer de se rappeler. Il y a des bons musiciens, des musiciennes qui diront, oh, ça faisait comme ça, mais bon, ça, ce n'est pas vraiment le son. Donc, une expérience sensorielle ne peut pas être saisie. Et pourtant, on se souvient, on peut se souvenir de la lumière sur la mer cet après-midi, ou peut-être voilà le temps qu'il faisait ce matin. On se souvient. On pourrait dire non, non, mais moi j'arrive quand même à garder des expériences sensorielles. Bonne vision, bonne mémoire visuelle, j'arrive à me rappeler, décrire la brume qu'il y avait, etc. Évidemment, c'est que des représentations. Donc, on ne peut pas saisir l'expérience elle-même quand elle se déroule. Et pourtant, on a besoin de s'en souvenir, on veut s'en souvenir. Donc à ce moment-là, on substitue au vécu, on a déjà parlé de ceci, on substitue au vécu une représentation. Et c'est cette représentation que l'on peut faire ressurgir. Voilà, la lumière qu'il y avait ce matin, peut-être le temps qu'il faisait ce matin aussi. Donc ce qu'on va pouvoir ramener, ce qu'on a pu saisir, c'est la représentation. Un peu comme si on faisait des photos de nos expériences, et ce qu'on garde, c'est ces photos, qui sont des représentations, on voit bien qu'ils sont stables, qui ne changent pas, mais pas le vécu lui-même. Et ces représentations, ces images mentales, ce sont les concepts. Donc, quand on ne saisit pas une expérience, on la remplace par une représentation, et c'est ça qui est saisi. Ce qu'on saisit, c'est jamais le vécu lui-même, c'est toujours un substitut. Vous voyez où la confusion, elle est peut-être manifeste. C'est que dans le fond, dès qu'on substitue au vécu eux-mêmes des représentations, ça c'est la confusion. Donc on est dans le monde des représentations au lieu d'être dans le monde réel. Et c'est ces représentations qui nous enferment, c'est ces représentations qui nous limitent. Donc là, on n'est pas dans attaché à sa famille, à ses amis, on est dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus immédiat, beaucoup plus intime dans chaque vécu. Le fait de, immédiatement, on est parlé, de dire, le vécu dans sa singularité, pour prendre un langage moderne, dans sa singularité, il est insaisissable. Et dès qu'on en fait une généralité, cette généralisation, c'est justement le concept. Le chant de l'oiseau. C'est très différent que ce que j'entends au moment où il chante, qui est incomparable. Donc dès que je pars de l'expérience singulière à une généralisation, voilà, je m'enferme dans ce monde des représentations, qui fait que tout d'un coup, ce que je rencontre, ce n'est pas le monde dans sa réalité. C'est le monde de ma confusion. Alors il y a quelque chose d'assez fantastique. On est enfermé dans ce monde qui n'a aucune réalité. Et après, on se plaint, laissez-moi sortir. Alors que ce monde-là a aucune réalité, il n'a que la réalité des représentations. Voilà, on parle de manière générale dans nos vécus quotidiens, mais on pourrait très bien citer des exemples. Combien certaines croyances enferment les gens de manière extraordinaire. J'ai parlé de ceci, mais voilà, ça me semble un exemple plus facile, qui est moins propre à froisser des gens. Quand je suis allé en Chine la première fois, il y avait encore des vieilles femmes qui avaient des petits pieds, mais les petits pieds, c'était vraiment petit, hein, parce qu'elles bandaient les pieds quand elles étaient des petites filles, parce que c'était un signe de noblesse. Parce que si on avait des petits pieds comme ça, ben, on ne peut pas vraiment marcher, on ne peut pas aller au champ, on ne peut pas travailler. Donc, vous rendez-vous compte, la croyance, c'est un signe de noblesse, donc il fallait bander les pieds des petites filles pour pas qu'ils grandissent. Ça peut être solide, hein, les représentations. C'est plus solide que même si le Parti communiste avait dit bander les pieds des petites filles, parce que là, on aurait toujours pu un petit peu desserrer les bandages pour qu'ils grandissent quand même, mais cette croyance que c'est ce qu'il fallait. On a plein de croyances comme ça, évidemment. Les religions sont pleines de croyances comme ceci. Je ne dis pas qu'il n'y a que des mauvaises croyances, il y en a plein qui sont magnifiques, mais il y en a aussi qui limitent. Bon, on parlait de nos croyances de la société à l'heure actuelle, où le profit est ce qu'il faudrait. On est aussi limité dans ces croyances-là. Donc c'est ce qui nous enferme. Nous sommes limités, nous nous cognons à ces représentations qui sont notre propre création. Là, on parle de quelque chose de presque neutre. Bon, le chant de l'oiseau, la représentation de mon corps ou bien le vécu direct. Mais évidemment, on a toutes les représentations personnelles qui viennent de situations. Il est comme ceci, elle est comme cela, etc. Enfin, on a toutes ces représentations plus partisanes, on pourrait dire, qui dépendent de nos vécus, mais qui sont aussi des enfermements. Donc l'expérience singulière, dans sa simplicité, dans son immédiateté, avant qu'il y ait interprétation, elle n'est jamais conditionnante. Ça c'est quand même assez, surprenant. Que jamais aucun vécu, avant qu'il soit conceptualisé, est conditionnant. C'est quand même fort, hein? Au moins le prendre à titre d'hypothèse de travail. Donc, comment ne pas saisir? Parce que, voilà, c'est, on peut comprendre, hein, ça semble intéressant de ne pas saisir parce qu'à ce moment-là, il y a une liberté inconditionnée, mais comment ne pas saisir? C'est exactement ce que nous mettons en place dans la méditation, c'est de rester au plus proche de l'expérience, du vécu lui-même, dans la sensation corporelle, dans l'audition, dans la présence, dans le mouvement, dans la présence aux états mentaux de somnolence, de fatigue, de tristesse, d'inquiétude. C'est en restant au plus proche de l'expérience, sans tomber dans une généralisation, dans ce qu'elle a de particulier dans l'instant où je la vis, c'est en restant proche dans cette intimité-là, où il n'y a pas, avant qu'il y ait une représentation, que l'absence de saisie surgit. Et c'est vraiment ce qu'on peut éprouver. Par moment, la pratique, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 20 ans de pratique. Par moment, quand on a l'impression que les éléments étaient en équilibre, je ne sais jamais pourquoi, mais ça arrive un peu de manière magique, les éléments étaient en équilibre et tout d'un coup, on découvre que, tiens, à ce moment-là, effectivement, on comprend exactement ce que ça veut dire. Difficulté ou pas, il n'y a aucune contrainte, il y a ce sentiment de liberté. Je ne suis pas dépendant de ce qui surgit. Donc on peut en faire l'expérience, et je crois que c'est là que le premier élément se renforce, l'élément de la foi, de la confiance. La confiance vient au moment où on commence à faire ces expériences-là. Donc la pratique est simple. De rester au plus proche de l'expérience, ça ne demande pas un savoir compliqué, de la philosophie compliquée, une position de yoga où on ne sait plus comment on va arriver à se défaire de la position. Ça ne dépend de rien, rien. Ça dépend juste d'être au plus proche de l'expérience. Et pour être au plus proche de l'expérience, il s'agit d'être attentif aux réactions, aux partis pris qu'on peut avoir. Je ne veux pas ça, je voudrais bien autre chose. Et ça nous empêche d'être proche de l'expérience. Et à ce moment-là, cette sagesse, qu'est-ce qu'elle va découvrir dans un premier lieu? C'est que tout change d'instant en instant. Que cette stabilité venait justement des représentations. Elle va découvrir une autre chose, de manière manifeste, pas intellectuelle, c'est que dans le fond, l'expérience n'est pas le lieu de la satisfaction. Ça veut dire que ce n'est pas dans une expérience agréable qu'il y a... L'expérience agréable ne fait pas vraiment l'enjeu. Ou l'expérience désagréable ne fait pas non plus l'enjeu dans le sens où il faudrait l'éliminer. Que ça, dans le fond, ça n'a rien à dire sur notre liberté. Et tant qu'on met l'enjeu à ce niveau-là, alors on est emprisonné. Et ça, évidemment, c'est aussi une grande liberté que de se dire « je ne dépends pas des... » des expériences qui surgissent. Un moine qui était mort dans une grotte en Thaïlande, qui avait médité pendant des années, il avait marqué sur le mur de sa grotte quel bonheur que de savoir qu'il n'ait aucun bonheur à attendre. Ce n'était pas quelque chose de déprimé, pas du tout. C'est-à-dire, on arrête de se casser la tête pour ce bonheur qui devrait venir, etc. Mais si on est tout d'un coup là, on découvre qu'il est là. Donc quel bonheur que de découvrir qu'il n'ait aucun bonheur à attendre. Donc l'expérience n'est pas le lieu de la satisfaction, de la plénitude ou de la liberté. Et aussi, si tout change d'instant en instant, tout, le monde dans lequel on vit, nous-mêmes, notre conscience, tout change, il n'y a pas quelque chose, il n'y a aucune entité qui elle est stable. On est dans un monde, voilà, en flux continu. Ça veut dire que cette notion qu'on peut créer, hein, cette représentation d'une entité qui serait stable, qui serait moi, elle, c'est juste une représentation. Un moi stable, il y a bien une conscience, à chaque instant, il y a des expériences, il n'y a pas rien, il y a une conscience de ceci, une conscience de cela, dans cette continuité, mais le fait de placer dans ce flot de vécu, tout d'un coup, une entité auquel on attribue une existence solide, voilà, là, il y a quelque chose, il y a un moi qui existe solidement, etc., ça, quand l'impermanence apparaît clairement, on se rend compte que ça n'a aucun support. Et c'est pas qu'on a perdu quelque chose. C'est pas qu'on se dit, mince, comment je fonctionne? Mais on fonctionne parce que chaque instant, il y a conscience de quelque chose. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas absence de conscience. Il y a juste ce qu'on rajoutait qui était... Je vais évoquer un sutra qui décrit cette attitude d'un point de vue pratique. C'est un moine qui vient interroger le Bouddha, un moine qui est âgé, qui s'appelle Manyungkyaputta, et qui vient dire au Bouddha, vous ne voulez pas me donner une pratique de méditation simple pour quelqu'un d'âgé, quoi. Bon, moi, je n'ai pas le temps vraiment de pratiquer, je n'ai pas beaucoup d'années à pratiquer, donc voilà, donnez-moi quelque chose de simple et d'efficace, quoi. On a de la chance d'avoir des moines comme ça de temps en temps qui viennent poser des questions qu'on voudrait bien poser. Donc, voilà. Et le moine, et le Bouddha répond que même au jeune moine, il ne donnerait pas une autre réponse. C'est-à-dire que cette réponse, elle vaut pour tout le monde, pas seulement pour quelqu'un d'âgé. Et il dit, pratique de telle manière que lors de la vision, il n'y ait que la vision, lors de l'audition, que l'audition, lors de la gustation, que la gustation, etc. Lors du penser que le penser, on pourrait dire lors de la somnolence que la somnolence, donc qu'on reste au plus proche de chaque vécu. Il dit, alors tu ne seras plus ni ici ni là, et c'est la fin du conditionnement, c'est la fin de la souffrance, c'est le nirvana. Mais c'est très bref, hein, très bref. Lors de la vision que la vision, et on reste exactement dans l'expérience singulière. Que la vision, ça veut dire il n'y a pas d'interprétation, que l'audition, il n'y a pas d'interprétation. Ni moi qui entends l'aboiement du chien. Il y a juste cette expérience. Il décrit vraiment là cette expérience singulière. Donc ça, c'est l'attitude que l'on explore. Ce n'est pas juste une décision, ça demande du doigté, ça demande de la pratique, mais on explore ceci pour avoir cette qualité-là. Et ce que ça implique, je donne une citation de Kierkegaard parce que ça me semble intéressant, qui s'intéresse, lui, qui décrit l'expérience singulière, il dit l'expérience singulière est non-savoir. Non-savoir, c'est bien ce qu'il veut dire, elle ne peut pas être saisie. Je ne parle pas de nirvana et autres, mais il est quand même très proche de son expérience-là, il dit elle est non-savoir parce qu'on n'a pas voulu la ramener à du connu. Tant qu'on ne l'a pas ramené du connu, elle est non-savoir. Si on la ramène du connu, c'est par une représentation. Voilà le contexte de la pratique, mais ça revient à ce qu'on explore d'instant en instant, le fait d'essayer d'être le plus proche de nos expériences et d'être attentif aux réactions. Il va y en avoir d'aversion, d'attachement, de lassitude, etc. C'est normal, mais sans nécessairement y adhérer et sans croire qu'il s'agit de promouvoir certaines expériences particulières. Mais au contraire, de trouver comment est-ce que je peux être dans la bonne disposition dans cette expérience particulière. Voilà, donc pour finir un peu la description de ces cinq facultés, et puis donc on reprendra, c'est beau là, on reprendra à 9 heures.